France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h19. Quel regard les jeunes portent-ils sur la présidentielle? Quelles sont leurs aspirations, leurs rêves même? Comment se positionnent-ils politiquement dans ce vieux pays qu'est la France? France Inter organise aujourd'hui à la Maison de la Radio un face-à-face inédit entre 100 jeunes et 7 prétendants à l'Élysée. Un événement initié aussi par l'association Chemin d'Avenir que vous dirigez, Salomé Berlioux. Bonjour.
Bonjour.
Les moins de 25 ans sont parmi ceux qui se sont le plus abstenus lors de la dernière présidentielle. Un tiers n'est pas allé voter au second tour. Vous qui côtoyez des jeunes tous les jours avec votre association, est-ce que vous sentez un plus grand enthousiasme cette année ?
Alors effectivement, à travers les actions de Chemin d'Avenir, nous on accompagne, on informe, on promeut depuis plusieurs années maintenant les jeunes des zones rurales et des petites villes. Et parallèlement à ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de mener une action de plaidoyer en faveur de la jeunesse française, notamment dans le cadre de la présidentielle, parce que les jeunes, on parle beaucoup d'eux, on parle beaucoup pour eux, mais on entend rarement leur voix. Et ce plaidoyer, on l'a conçu en 3 temps dans le cadre de la campagne. D'abord une série de podcasts qui donnent la parole aux jeunes. Ça s'appelle Place aux jeunes en partenariat avec Ouest France et 20 minutes et donc on les met en situation de commenter l'actualité et de parler d'eux. Mmh. L'événement dont vous parliez, des candidats et des jeunes aujourd'hui en partenariat avec cette maison et puis un contrat, on y reviendra peut-être, qu'on va proposer aux candidats, à la signature des candidats pour faire entendre de nouveau la voix des jeunes.
J'aimerais juste revenir sur cette abstention. Comment vous l'expliquez? Pourquoi les jeunes ne vont... Enfin les jeunes, non je vais pas dire les jeunes, mais pourquoi une grande partie des jeunes quand même ne vont pas voter?
Alors c'est difficile, j'en parlais hier justement avec Brice Teinturier qui montre ces chiffres de manière très claire et qui montre à la fois l'espèce de cercle vicieux où effectivement on peut penser aujourd'hui que les jeunes ont effectivement plus de moyens que par le passé de s'informer, donc de suivre une forme d'éducation à la démocratie. En même temps il y avait une jeune
vous parlez du téléphone sonné hier soir.
Exactement, du téléphone sonné, une jeune qui témoignait du fait qu'elle ne se sentait pas, elle, en mesure de décider.
Ce que je veux, c'est pas votre analyse ni de sociologue, parce que vous ne l'êtes pas, mais c'est votre ressenti avec tous ceux que vous côtoyez, ceux qui ne vont pas voter, ils vous disent quoi?
Mais ils disent, en gros, on attend des propositions des candidats qui ne viennent pas, qui soient des propositions à la fois concrètes, pragmatiques, qui nous touchent, qui touchent notre quotidien, et des propositions qui soient un petit peu ambitieuses et qui nous fassent rêver. Et donc, ils ne se sentent pas, de fait, suffisamment stimulés, suffisamment motivés par les propositions telles qu'elles sont faites aujourd'hui. Et donc, ça ne les invite pas à aller voter dans les prochaines semaines.
Mais la jeunesse, elle n'est pas absente des programmes des candidats à la présidentielle. Là, j'en ai sous les yeux. Il y a plein de mesures financières, des mesures pour l'université. Il y a ceux qui proposent le droit de vote à 16 ans. C'est quoi? C'est que c'est pas la priorité des jeunes? C'est les candidats, ils sont, passez-moi l'expression, un peu à côté de la plaque, c'est ça?
En tout cas, c'est ce qui ressort, c'est le sentiment que on parle souvent pour eux, qu'on leur fait dire des choses, mais que à la fois sur leur situation de précarité, les situations de précarité qu'ils traversent.
Il y a plein de candidats qui font des propositions
bien sûr,
financières.
Bien sûr qu'il y a des propositions, absolument. Et non seulement il y a des propositions, mais il y a des tas de choses qui ont été faites au cours du quinquennat précédent pour prendre en compte ces problèmes. Là. Mais on voit bien que ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'on voit bien que la jeunesse du pays aujourd'hui, elle a besoin qu'on l'embarque, elle a besoin qu'on lui envoie des signaux qui l'emmènent vers les prochaines élections de manière beaucoup plus riche et de manière beaucoup plus exaltante. Vous avez des jeunes qui sont, y compris après la Covid-19, dans un contexte de détresse psychologique profonde, et ça on le voit bien avec Chemin d'Avenir sur le terrain. Vous avez des jeunes qui ont envie de s'engager et à qui on ne donne pas forcément les moyens de le faire. Alors, il y a le service civique, il y a le service national universel, qui sont des outils pour le faire. Mais aujourd'hui, et dans les propositions que nous avons formulées avec un collectif de 28 associations qui sont des solutions vraiment pensées pour les jeunes, par les jeunes, on a cette volonté de les embarquer, de les emmener plus loin pour que justement ils participent plus à la vie du pays.
Mais déjà quand vous dites les jeunes ou la jeunesse, de quoi parle-t-on? De qui parle-t-on exactement?
Alors, parce que c'est si pas vous une... dites que je ne suis pas sociologue, je ne vais pas entrer là dans une grande discussion sur la jeunesse ou les jeunesses.
C'est pas une catégorie homogène, les aspirations sont pas les mêmes quand on vit à la ville, à la campagne.
Vous avez
justement, vous parlez
raison.
Plus des jeunes qui sont issus de la ruralité.
Alors oui et non, c'est-à-dire que l'action de Chemin d'Avenir, c'est une action de terrain auprès de 5000 jeunes des territoires ruraux. locaux et une action de plaidoyer qui a vocation à mettre ces jeunes en lumière. Aujourd'hui, les jeunes des zones rurales et des petites villes, c'est 65% des jeunes français, donc il faut aussi les mettre en lumière et c'est ce que nous faisons. Mais parallèlement à ça, l'événement d'aujourd'hui, par exemple, que nous avons conçu avec France Inter, il a vocation à représenter 100 jeunes les plus représentatifs possibles de la société française et de la jeunesse française, qui viennent de tous les horizons sociaux et géographiques, qui sont dans des situations diverses, qui représentent aussi des questions de diversité, et de leur donner la parole, et pour qu'ils puissent, et c'est là où c'est un événement inédit, pour qu'ils puissent questionner les candidats en direct, et pour qu'ils se sentent aussi, justement, mis en lumière et qu'ils aient le sentiment qu'on cherche à avoir leur avis. Parce que c'est vraiment ce qui ressort aujourd'hui. C'est le côté, c'est pas pour nous, la politique, ça ne nous concerne pas. Et on ne se sent pas représenté.
Mais c'est aussi le serpent qui se mord la queue. Hein. Puisqu'ils ne votent pas, à quoi bon s'intéresser à eux aussi ?
Ah oui, alors absolument. Mais là, vous faites bien de le dire parce que ça fait partie des choses que je trouve non seulement préoccupantes, mais un peu où je trouve qu'il faut aussi secouer à la fois les candidats et les jeunes. On est dans une situation, effectivement, où d'un côté, il y a un discours qui tend à dire, voilà, la politique est faite par les vieux, pour le dire rapidement. Et puis d'un autre côté, les jeunes qui se détournent des urnes et qui donc ne peuvent pas participer à la vie du pays. Et donc je pense qu'à la fois, il faut secouer les candidats en leur disant, mais faites plus de propositions concrètes pour les jeunes, allez les voir, arrêtez aussi de les victimiser, ça c'est vraiment très important. Les jeunes, ils n'ont pas du tout envie d'être une génération sacrifiée. On le disait, il y a des situations qui effectivement et objectivement sont douloureuses et qu'il faut prendre en compte, mais ils ont surtout besoin qu'on les emmène vers l'avenir, qu'on les détourne aussi des uniques problématiques qui sont anxiogènes pour eux. Et en même temps, aux jeunes, il faut leur dire, et je leur dirais volontiers aujourd'hui, engagez-vous. C'est-à-dire que si vous estimez que la politique n'est pas faite pour vous, eh bien, descendez dans l'arène, faites en sorte de prendre votre place à table, vous pouvez le faire, je parlais du SNU, je parlais du service civique, mais faites-le plus encore, et si la campagne présidentielle n'est pas le moment pour le faire, je ne vois pas quand ce sera le bon moment, justement.
Salomé Berlioux, qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue avec des candidats ? Vous n'avez pas peur d'avoir que des belles phrases ou de belles intentions ?
Je pense que, étant donné le travail qu'on a fait avec les jeunes au cours des dernières semaines, et les questions, les 450 questions qui sont remontées du terrain, parce que c'est ce qu'on a fait, donc on s'est appuyé sur le travail de structures de l'économie sociale et solidaire qui vont de, je peux pas toutes les citer parce qu'il y en a une trentaine, mais Bibliothèques sans frontières, la Fève, Simplon, Unicité, de façon à avoir des retours qui soient vraiment les retours des jeunes, et les questions qu'ils vont poser, qui sont des questions qui viennent vraiment d'eux-mêmes, vont permettre, alors non pas de secouer les candidats, mais de les interroger réellement. Donc non, je ne suis vraiment pas inquiète. Quand il s'agit de la parole des jeunes et quand on arrive à libérer celle-ci, il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Et puis aussi cette sorte de contrat que vous souhaitez soumettre aux différents candidats avec 12 propositions. Il y a par exemple un capital jeune de 10 000 euros dès 18 ans. Il y a aussi un droit à la connexion pour chaque jeune afin de résorber la fracture numérique. Il y a des mesures plus étonnantes, je trouve. Il y a comme cette proposition d'une marche par jour pour se connecter à la nature. D'abord, de quoi s'agit-il et est-ce que c'est vraiment du ressort d'un président, ça ?
En fait, la réalité, c'est que cette proposition, elle a plusieurs bénéfices. À la fois, le fait de permettre aux jeunes de bouger, de leur permettre de bouger plus, parce que aujourd'hui, ils bougent beaucoup moins qu'il y a ne serait-ce que 30 ans. Leur permettre de s'aérer, et on parlait de santé mentale, ça fait aussi partie de ce qui peut leur permettre de se libérer l'esprit et de mieux gérer l'avenir et le quotidien. Et puis, ça les connecte effectivement avec la nature. Vous savez que l'écologie est une de leurs priorités. Alors évidemment, ça ne peut pas être fait partout. Et il faut aménager les choses en fonction des territoires. Mais oui, ça fait partie d'ailleurs de dispositifs qui existent déjà dans les pays anglo-saxons, par exemple.
Merci Salomé Berlioux. Vous dirigez l'association Chemin d'Avenir que vous avez fondée également. Vous étiez notre invité ce matin dans le 5-7 et vous allez bien sûr participer à cette grande journée que France Inter organise. Une journée à suivre en direct sur franceinter.fr ainsi que sur la chaîne YouTube de France Inter. Des candidats et des jeunes avec donc 7 candidats qui vont se succéder sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio. Ça commence à 10h avec Fabien Roussel et ça se termine à 17h30 avec Marine Le Pen.
France Inter.